Je réponds tout de suite à une petite question. Je comprends très bien que ce sont des questions qu'on se pose et qui sont difficiles du reste. En critique, vous dites que l'appréhension est première. En ontologie, vous dites que le jugement d'existence est premier. Évidemment, le mot « premier » peut être employé dans des sens différents. Sans doute, n'employez-vous pas le mot « premier » dans le même sens. J'ai dit en critique que l'appréhension est première en ce sens que nous sommes dans une perspective de réduction pour trouver l'élément premier. Donc c'est au niveau de l'élément, de ce qu'il y a d'indivisible dans notre vie intellectuelle. En métaphysique, je dis que le jugement d'existence est premier et non pas l'appréhension, parce que je suis en face d'un premier au point de départ, à partir de quoi je pars, dont j'ai parfaitement conscience. Tandis que l'appréhension échappe en partie à la conscience. L'appréhension est comme un au-delà de la conscience. J'ai conscience de mes jugements, mais ce qui est impliqué dans le jugement, qui est l'appréhension, je n'en ai pas immédiatement conscience. Alors voyez, ces deux points de vue différents, c'est le point de vue de la réduction critique par rapport à l'élément premier de notre vie intellectuelle, et en métaphysique, c'est au contraire un point de départ dont j'ai parfaitement conscience. Donc la dernière fois, j'ai essayé de vous montrer comment, à la racine de toutes les expériences, il y a le jugement d'existence. Le jugement d'existence qui se fait par et dans les différentes expériences. Mais je mets l'accent sur le jugement d'existence et je peux, dans une attitude, je ne dis pas réflexive au sens fort, mais dans une attitude d'auto-lucidité, je peux très bien ne regarder que le jugement d'existence. Mettre tout l'accent sur le jugement d'existence. Vous voyez, quand j'ai une expérience comme l'expérience du travail ou l'expérience de l'amour d'amitié, je ne mets pas tout l'accent sur le jugement d'existence. Je mets l'accent sur ce que représente le travail. Je sais bien que l'exister est présent dans le travail, comme lorsque j'aime. Je mets l'accent sur ce que représente l'amour et non pas l'exister dans l'amour. Je peux, au point de vue de ma vie intellectuelle, faire ces distinctions, puisque le contenu est différent. Et donc je peux très bien mettre l'accent sur ce qu'est l'amour et laisser, je ne dis pas le supprimer, mais laisser dans l'ombre, laisser d'une manière confuse le point de vue de l'exister. Et je peux très bien réfléchir sur ce que représente ce qu'il y a de fondamental dans toutes mes expériences au sens fort, c'est-à-dire mes expériences qui impliquent l'alliance de l'intelligence et des sensations, et mettre en pleine lumière le jugement d'existence. Et c'est ce que j'avais essayé de vous exprimer la dernière fois. Lorsque nous disons « ceci est », je peux mettre l'accent sur « ceci », je peux mettre l'accent sur « est ». Et dans le jugement d'existence, nous mettons l'accent sur « est ». Et nous voyons justement que c'est cela qu'il y a de si particulier, que l'exister saisi dans la réalité, dans toute réalité existante, il y a toujours cette « est » qui qualifie toutes ces réalités existantes, qui est attribuée à toutes ces réalités existantes, qui est à la fois commun à toutes ces réalités existantes et qui, en même temps, est ce qu'il y a de plus particulier, de plus individuel, donc de plus singulier dans chacune de ces réalités existantes. Toutes ces réalités existantes existent. Donc je dois essayer de comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier dans le jugement d'existence en mettant l'accent sur « est ». C'est à partir de là qu'il y a cet étonnement philosophique. Je ne dis pas l'angoisse, mais un étonnement qui peut impliquer une certaine angoisse. Je ne suis pas contre, parce que l'angoisse, ça peut prendre des modalités très différentes. Mais un étonnement affectif qui fait que je ne comprends plus. Comment se fait-il que l'exister est commun à toutes les réalités que j'expérimente, et comment l'exister est-il en même temps ce qu'il y a de singulier à chacun? Et moi-même, je suis pris dedans. C'est ça qu'il faut bien saisir. Celui qui interroge, celui qui expérimente, il existe. J'existe. Je suis. Et cet aspect fondamental de mon existence ne modifie pas ma pensée. Cet aspect fondamental de mon existence est à la racine de ma pensée. Et il est présent dans ma pensée. J'existe en pensant. J'existe en réfléchissant. Et réfléchir, penser, apparaît comme une modalité de mon existence. Ce n'est pas mon existence dans ce qu'il a de plus fondamental, puisque je puis ne plus penser et continuer d'exister. Et donc mon existence a quelque chose de fondamental relativement à ma pensée, quelque chose de primordial. Et cependant, c'est bien quand je pense, quand j'aime, que mon exister prend toute sa qualité. Autrement dit, il y a là quelque chose qui demeure toujours comme un mystère. C'est à partir de l'exister que la pensée apparaît, émerge, que l'amour émerge, que cet amour et cet exister, que cet amour et que cette pensée ne sont pas l'exister, tout en le présupposant. Je suis donc, quand j'essaie de réfléchir sur l'exister dans le jugement d'existence, je suis donc au-delà de la distinction habituelle qu'on fait objectif et subjectif. Puisque c'est à la fois ce qu'il y a de plus moi-même, et en même temps, ma pensée qui regarde telle ou telle réalité est distincte de mon exister, tout en présupposant mon exister. Mon exister ne modifie pas, mais il est radical, il ne modifie pas le caractère de ma pensée. Il est comme au-delà. Donc je peux le faire par rapport à toutes les réalités qui sont extérieures à moi et par rapport à moi-même. Je crois que c'est très important de bien comprendre que nous touchons là, dans le jugement d'existence, quelque chose de tellement radical que nous sommes au-delà de toutes les distinctions que nous pouvons faire. Toutes les distinctions que vous pouvez faire, n'importe lesquelles, présupposent exister. Je suis donc en face de quelque chose de fondamental et en même temps d'ultime. C'est pas uniquement fondamental. C'est fondamental, mais c'est en même temps ultime, puisque cet exister prend des modifications différentes dans le point de vue de l'amour et dans le point de vue de la connaissance. Et je suis au-delà des distinctions que je fais habituellement entre autre et le même. Puisque l'exister, c'est l'autre, et l'exister, c'est moi. Et dans l'exister, je suis uni à l'autre qui existe, et je suis moi-même dans ma singularité. Prenez n'importe quelle distinction, Toutes les distinctions présupposent cela. Prenez les catégories, puisque les catégories sont pré-philosophiques et que d'une certaine manière, les catégories nous encombrent tout le temps. Alors, les catégories sont là, l'exister est au-dessus. Puisque la qualité existe, la quantité existe, la substance, elle est comme le sujet, elle est au-dessus. Je pourrais prendre toute l'expérience des qualités qu'on dit transcendantales. L'exister est au-dessus. Puisque le bien existe, l'un existe, et ainsi de suite. Je suis donc en face d'une donnée tout à fait première à ma vie intellectuelle. Réfléchissez si vous trouvez quelque chose qui est plus fondamental que l'exister. Et vous me le direz. Le vivant existe. Celui qui pense existe. Celui qui aime existe. Alors vous me direz, ah, c'est simplement le mot. Non, c'est pas le mot, c'est la réalité. C'est le jugement d'existence qui est exprimé par le mot. Mais j'ai le mouvement d'existence, le langage me sert toujours comme signe, mais je ne m'arrête pas au langage, je vais à cette expérience du jugement d'existence. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus radical que le jugement d'existence. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus radical. Cherchez, si vous le trouvez, vous me le direz, ça m'intéresserait beaucoup, parce que ça me permettrait de pouvoir vous montrer que le jugement d'existence est plus radical que ce que vous avez découvert. Ça m'intéresserait beaucoup par le fait même, parce que chaque fois qu'on a une objection, il faut toujours la sortir. Il ne faut jamais s'encombrer, autrement on reste avec des a priori. On n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. On dit, ah non, il y a quelque chose avant. Alors qu'est-ce qui est avant? Bon, alors là c'est l'étonnement radical. Comment se fait-il que ce qui est exprimé par « est », qui signifie le point de vue de l'exister, existe de ses multiples modalités, et c'est toujours l'exister. Ça existe. Ceci est. D'où l'étonnement. C'est important, l'étonnement. Parce que ça me permet de prendre un peu de recul, affectivement. Qui monte tout de suite, hein, c'est important que le philosophe réfléchit, pense, mais le philosophe est totalement engagé dans sa métaphysique. C'est pas une question uniquement de raisonnement. Si c'était uniquement une question de raisonnement, on n'avancerait pas. On sait, ça c'est une donnée psychologique très facile à comprendre, que dès qu'il y a un petit obstacle affectif, il y a un arrêt du développement intellectuel. Alors vous comprenez que quand il s'agit d'une réalité aussi radicale, s'il n'y a pas l'aspect affectif qui est là pour ouvrir mon intelligence à la recherche, je m'arrête. Et c'est ça que j'appelle un a priori affectif. Je ne me laisse pas entraîner par cette chose étonnante que, de fait, c'est vrai, toutes les autres réalités impliquent des modalités de ce qu'il y a de tout à fait fondamental et premier. Donc je suis là dans cet état d'étonnement. Et à partir de cet étonnement, naît l'interrogation. C'est très curieux que les interrogations ne peuvent naître qu'à partir de cette attitude affective. C'est aussi très important à saisir ça. L'idéaliste n'interroge plus, dit Merleau-Ponty. J'aime beaucoup cette phrase. L'idéaliste n'interroge plus. Merleau-Ponty avait très bien senti cela. Parce qu'au point de départ, je dirais, sa philosophie n'était pas précisément une interrogation. Tandis qu'il a redécouvert qu'il y avait quelque chose qu'on devait se poser. Qu'est-ce que c'est que l'être sauvage? Qu'est-ce que c'est que l'être pris radicalement avant toutes nos élucubrations? Avant toutes nos pensées? Il y a quelque chose qui s'impose à nous. Alors, il faut l'admiration pour que l'intelligence puisse interroger. L'interrogation, c'est l'intelligence en appétit de vérité. L'interrogation, je dis bien en appétit de vérité. Vous savez bien qu'il y a eu tout un grand mouvement avec le père Maréchal, le père Rousselot, pour essayer de reprendre tout le problème métaphysique par le point de vue de l'appétit de l'intelligence. C'est très intéressant, du reste, à regarder. Face à la scolastique, je comprends très très bien. Parce que la scolastique s'arrêtait aux définitions. Et donc, il n'y avait plus du tout d'un dynamisme interne. Ils ont voulu redécouvrir un dynamisme interne pour répondre, du reste, à certaines objections modernes, pour essayer de comprendre mieux le problème. Alors, ils parlent de cet appétit de l'intelligence. Et je crains un tout petit peu que, dans leur perspective, ils ne voient pas assez que cet appétit de l'intelligence s'exprime en premier lieu dans l'interrogation. C'est l'intelligence, dans son désir de connaître, qui interroge. Et l'interrogation, c'est une attitude de l'intelligence très radicale. C'est une intelligence qui devance. Il y a quelque chose de prophétique dans l'interrogation. Tout bon prophète interroge. Il ne doit pas trop affirmer. Alors il interroge, c'est plus sûr. On interroge, est-ce bien cela? Est-ce que c'est cela qui arrive? Vous voyez, on voit bien que l'interrogation, elle naît à l'intérieur de cette attitude affective pour essayer d'exprimer un appétit de l'intelligence. L'intelligence est en appétit quand elle n'a pas encore découvert. Quand l'intelligence a découvert, elle n'est plus au sens strict dans l'interrogation. L'interrogation demeure toujours parce qu'on ne découvre jamais parfaitement, de sorte que je peux dire que toute ma recherche philosophique demeure enveloppée de l'interrogation. Toujours. C'est comme une demande. C'est l'intelligence qui, elle-même, s'interroge pour progresser. S'il n'y avait plus d'interrogation, il n'y aurait plus de progrès. C'est pour ça que l'idéaliste ne progresse plus, puisqu'il n'interroge plus. Il a découvert dans ses idées. Ayant découvert dans ses idées, il s'arrête. Tandis qu'au contraire, si c'est le réel qui me conduit, le réel c'est moi-même du reste, hein, c'est pas seulement l'autre, c'est l'autre et moi. Mais si c'est le réel qui me conduit, ce qui est au-delà de ma vie intellectuelle, si c'est ce réel qui me conduit, ce réel existant, je ne peux jamais arriver à l'épuiser. Et donc, j'interroge toujours. Et cette première interrogation qui est si importante parce qu'elle est la clé d'une certaine manière de toutes les autres, qu'est-ce que c'est que l'être? Oui. Cette interrogation à partir du jugement d'existence. Qu'est-ce l'être? Ou bien qu'est-ce être? Peu importe, hein, le tout c'est de comprendre. Qu'est-ce l'être? Qu'est-ce être? Qu'est-ce exister? Qu'est-ce que c'est que l'être pris pour lui-même? Et le passage du jugement d'existence, ceci est à l'interrogation. Ce passage est capital. Il s'agit de bien le comprendre. Et je crois qu'il faut tout le temps le reprendre. Il ne faut pas dire « Ah, j'ai compris ». Oui, c'est bien. Si vous avez compris, vous avez compris l'importance. Mais il faut tout le temps le reprendre. Parce que nous n'arrivons jamais à épuiser complètement cette interrogation. Vous comprenez que plus l'intelligence est actuée, autrement dit, plus l'intelligence a découvert déjà certains domaines de la vérité, plus l'intelligence est forte. Elle est engraissée. Alors évidemment, elle peut s'arrêter à ce moment-là. Vous savez, les gens qui sont trop engraissés, sont des chiens avec un collier, et alors à ce moment-là, ils ne font plus la chasse. Ils ont suffisamment mangé, ils sont trop lourds. Alors quand l'intelligence est mal engraissée, alors elle s'arrête. Mais une véritable intelligence qui est en état de chasse, en état de recherche, en état de recherche de la vérité, qui a un appétit profond de la vérité, parce que c'est ça qui est le dynamisme de l'intelligence. La vérité étant le bien de l'intelligence. S'il y a ce levier de commande profond par rapport à la vie de l'intelligence, l'intelligence est en quête de vérité par rapport au réel. Elle veut connaître la réalité et elle veut aller le plus loin possible dans cette connaissance de la réalité. Et donc, une intelligence qui interroge est une intelligence qui est particulièrement éveillée. Et plus elle connaît déjà la vérité, plus son appétit de la vérité augmente. C'est ça la chose très curieuse. C'est là, dans l'ordre de l'intelligence, donc dans l'ordre spirituel, on peut le dire. On ne peut jamais dire « c'est assez ». Je peux le dire dans l'ordre matériel, mais pas dans l'ordre spirituel. C'est pour ça que plus une intelligence est actuée, plus l'interrogation est forte. C'est pour ça que je ne peux jamais m'arrêter. Et je peux tout le temps revenir sur ce passage du jugement d'existence à l'interrogation. Alors, là, il y a un petit problème que je ne veux pas m'arrêter trop là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est par l'étonnement ou l'admiration, peu importe, hein, il s'agit de bien comprendre ce moment affectif. L'admiration, c'est un élément affectif. Mais un élément affectif très important, hein. Notre affectivité concourt dans la recherche métaphysique. Et ce n'est pas à cause de ça que la métaphysique est de l'ordre du sentiment. Ce que disait Claude Bernard. La métaphysique, sentiment, par rapport à la méthode expérimentale. Vous voyez, ce n'est pas à cause de ça que la métaphysique est quelque chose, non, elle reste humaine. Et que l'homme a besoin de cette affectivité pour, justement, s'éveiller pleinement à la recherche de la vérité. Oui. C'est cet appétit vis-à-vis de la vérité qui commande. Cette vérité que je ne possède pas encore, mais que je désire, dont j'ai soif. Donc, c'est cette admiration qui éveille l'intelligence dans cet appétit de vérité et qui lui fait poser la question. Une intelligence qui ne serait pas en éveil de vérité, dans une recherche de vérité, ne poserait pas la question avec autant de force. Et s'il n'y avait pas ce levier affectif de l'admiration, il n'y aurait pas non plus interrogation. Réfléchissez sur les diverses interrogations que vous vous posez. Il peut y avoir des interrogations de pure curiosité. C'est vrai. La curiosité est une chose qui est bonne. C'est l'intelligence qui désire découvrir. Alors, il y a des interrogations de pure curiosité. Il y a des interrogations... Alors, ça, on sait bien, c'est dans l'ordre pratique. Et puis, il y a des interrogations qui sont beaucoup plus profondes. C'est cet appétit de vérité qui commande, alors. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, c'est comment... Je parle ici de la philosophie heideggerienne, comment l'angoisse dans ces philosophies, en quelque sorte, remplace l'admiration. Ou, si vous voulez, l'admiration est échangée par l'angoisse. Une autre attitude affective, je dirais l'attitude la plus positive, c'est l'admiration, l'attitude la plus négative, c'est l'angoisse. Alors que peut-être, je dirais, que toute admiration implique un peu d'angoisse et que toute angoisse peut aussi impliquer un peu d'admiration. C'est très possible. Il faudrait voir ça. Ce qui est sûr, c'est que là, nous sommes en face de deux attitudes affectives. Deux attitudes affectives qui sont commandées l'une par le jugement d'existence. C'est le jugement d'existence dont j'ai pris une pleine conscience qui fait naître en moi l'admiration. Si au contraire, le jugement d'existence est supprimé, Alors, à ce moment-là, l'angoisse peut naître. Je me demande si l'angoisse n'est pas toujours quelque chose qui naît à partir de l'oubli du jugement d'existence. L'oubli du jugement d'existence fait que je me trouve en face de réalité dont je ne connais que les déterminations, les catégories. Et donc, ces réalités sont comme un mur pour mon intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Vous voyez, ce que Heidegger appelle les étangs. Les étangs, c'est les catégories. C'est ce que je peux connaître par une connaissance scientifique. Les étangs représentent non pas le jugement d'existence, le jugement d'existence est caché par les étangs. Et donc il n'existe plus. Si je ne vois plus que les étangs, si je ne vois plus que les déterminations mesurables de la réalité, ces déterminations empêchent mon intelligence d'aller plus loin. Et donc sont comme un mur pour mon intelligence. Un mur que je dois brisé d'une manière ou d'une autre. Je dois rejeter tout cela. Alors c'est l'aspect négatif qui l'emporte. Il faut rejeter complètement et il n'y a plus rien de support positif. Et c'est bien là où naît l'angoisse. L'angoisse naît à partir de là. Quand la négation implique une affirmation plus fondamentale, il peut y avoir admiration, il peut y avoir inquiétude, il peut y avoir effroi, mais il n'y a pas angoisse. Il y a un désir d'aller plus loin pour découvrir ce quelque chose de positif qui résiste à toutes les négations. Mais quand de fait la négation devient absolue, et qu'elle supprime tout et qu'il n'y a rien, alors l'angoisse. Et pour Heidegger, c'est à partir de cette angoisse que va naître, de fait, va apparaître l'être. Et cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que des deux côtés, que je prenne l'admiration à partir d'un jugement d'existence, qui rejette, hein, qui implique le dépassement à l'égard de toutes les catégories, à l'égard de toutes les déterminations, de tous les ceci, pour mettre en pleine lumière ce qu'il y a d'actuel dans Est, dans E, qui fait qu'il y a un support positif. Ici, je nie. Il y a une négation à l'égard du ceci. Et je mets en pleine lumière E. Il y a donc un support d'où peut naître l'admiration. Et à partir de là, il y a l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne regarde que cela. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Tandis que dans Heidegger, il y a la négation des étangs, une négation absolue. Il n'y a rien au-delà des étangs. L'être n'est pas caché sous les étangs, c'est autre chose. Il apparaît à partir du néant. Donc, c'est à partir du néant. Et alors, ce n'est pas étonnant qu'il y ait l'angoisse. L'angoisse, c'est justement c'est ce lien avec le néant. Et c'est à partir de là que l'être apparaît. Et donc, on peut dire que l'interrogation de l'être, puisque penser l'être, c'est toujours un peu sous mode d'interrogation. Et c'est toujours à partir d'une interrogation. Et alors, c'est à partir de là que l'être apparaît. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Pour Aristote, le point de vue, du moins, pour la philosophie réaliste, parce que c'est Aristote ne le dit pas, mais pour la philosophie réaliste, l'être apparaît à partir des négations de toutes les catégories. Et donc, il reste quelque chose qui est présent au-delà des catégories, au-delà des déterminations. Quelque chose qui est présent et que je mets en pleine lumière. C'est propre de l'intelligence qui met ça en pleine lumière. Elle peut le faire. Dans une interrogation, elle met en pleine lumière et qu'est-ce que c'est que l'être ? Tandis que dans la perspective heideggerienne, puisqu'il y a la négation de l'étant, de tous les étants, je ne peux plus découvrir l'être à partir de l'expérience. Il n'y a plus de contact. Il y a uniquement à partir du néant et de l'angoisse l'apparition de l'être. C'est intéressant parce qu'il y a des choses analogues. C'est toujours ça qui est intéressant à voir. Ça me semble très important de saisir ces mouvements parallèles pour mieux comprendre comment l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» naît à partir de cette attitude affective, mais en continuité avec le jugement d'existence. Et alors, c'est ici où il s'agit de bien comprendre comment il y a une continuité entre le jugement d'existence et l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Autrement dit, ici, et là. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ceci est. Quelle est la continuité ? La grande question qui se pose, alors évidemment là je suis dans une attitude de réflexion critique, mais l'attitude de réflexion critique doit accompagner tout le temps la recherche métaphysique, la recherche de la philosophie première. Donc elle accompagne tout le temps la philosophie. Y a-t-il une signification différente entre ceci est et qu'est-ce que c'est que l'être ? Et ceci, c'est très important. Parce que s'il y a une nouvelle signification, il n'y a plus de continuité. Pour Heidegger, entre qu'est-ce que c'est que l'être et les étants, il n'y a aucune continuité. Il ne peut pas y en avoir parce que les étants sont au niveau des catégories. Sont au niveau de la forme. Donc il n'y a aucune continuité. Les étants ne me disent rien de l'être. Ça, je crois qu'il faut maintenir cette espèce d'absolu qu'il met entre le point de vue des étants et le point de vue de l'être. Il n'y a pas de continuité. Ici, je me pose la question, y a-t-il continuité entre le jugement d'existence qui dit ceci est, à partir de nos expériences, et qu'est-ce que c'est que l'être ? Et je dis qu'il y a continuité. Parce que c'est la même signification entre est et être. Et cependant, il y a transposition, d'une certaine manière. Il y a un passage, il y a quelque chose de nouveau. L'intelligence interroge. Et quand l'intelligence interroge, l'intelligence devance. L'intelligence va plus loin. L'intelligence demande de dépasser d'une certaine manière ce qu'il y a de particulier dans ce jugement d'existence. Elle veut aller plus loin, puisqu'elle est en appétit de vérité. Et que toute interrogation, c'est un pas en avant. Donc, ce n'est pas du tout égal. Mais il y a continuité au point de vue de la signification. Si je réfléchis sur la différence entre le jugement d'existence, ceci est, et l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je peux dire que je suis en présence d'une certaine formalisation, le passage du concret à l'abstrait. Et ceci, c'est très important de le comprendre. Prenez l'exemple très simple pour comprendre le passage du concret à l'abstrait, blanc, blancheur. Parce que ça, on comprend tout de suite, si on réfléchit deux minutes. Blanc, blancheur. En latin, je prends l'exemple que prend constamment saint Thomas, « ens esse ». Est-ce ce qui est, est-ce être, l'infinitif. Nous sommes ici en face du concret, là en face de l'abstrait. Entre concret et abstrait, entre le passage de la connaissance du blanc du mur et de la blancheur, il y a deux actes de connaissance qui portent sur quelque chose de distinct. Le contenu du jugement qui dit le blanc du mur et le contenu du jugement qui dit qu'est-ce que c'est que la blancheur, il y a une discontinuité. Il y a une discontinuité puisque je suis en face du concret et de l'abstrait. Réfléchissez sur votre langage constamment, vous passez du concret à l'abstrait sans vous en rendre compte. C'est ça qui est très curieux, ça prouve que notre vie intellectuelle est très faible. Parce que si notre vie intellectuelle était un peu plus vivante, on s'apercevrait tout le temps quand on passe du concret à l'abstrait. Ces changements de vitesse, c'est quand même quelque chose d'important. Et si vous démarrez dans l'abstrait, il n'y a plus rien. Il faut toujours démarrer dans le concret. Autrement, ça ne va plus. Parce que vous progressez par le concret et vous ne progressez jamais par l'abstrait. Vous plafonnez. Si vous voulez commencer par l'abstrait, mais vous n'avez plus aucune expérience. Et donc vous n'avez plus qu'une seule manière de progresser, c'est la dialectique. C'est le progrès dialectique à partir de l'idée. Et vous progressez dialectiquement. Donc vous progressez dans le bleu, sans savoir où vous allez. Puisque vous progressez à partir de l'idée. Tandis qu'au contraire, quand vous revenez à la réalité, vous essayez tout le temps de vous appuyer sur le réel. C'est le réel que vous désirez connaître. C'est l'homme que vous désirez connaître. C'est pas l'humanité. C'est l'homme que vous désirez connaître. C'est la réalité existante que vous voulez connaître. C'est là où vous découvrez la vérité profonde. Alors, vous voyez, c'est très important cela. C'est très simple, c'est très élémentaire, mais c'est souvent les choses les plus élémentaires qu'on oublie. Et alors, parce qu'on les oublie, à partir de là, on ne sait plus très bien où on va. C'est quand même très simple de voir la différence de registre dans notre vie intellectuelle entre le concret et l'abstrait. Le concret, c'est ce que j'expérimente. Vous avez l'expérience du blanc du mur, si vous le regardez. Vous n'avez aucune expérience de la blancheur. Vous n'avez qu'une expérience médiatisée. Mais la blancheur, vous ne l'expérimentez pas. Vous la pensez. Vous pensez ce que c'est que cette qualité, la blancheur. Quand vous achetez quelque chose, vous ne dites pas « je veux acheter la blancheur ». Non, « je veux acheter tel blanc ». C'est ça que je veux, telle couleur. Ça, vous êtes là dans le concret. La blancheur, non. C'est curieux, cette chose-là. Hein? C'est très, très curieux. Ce besoin de l'intelligence de passer du concret à l'abstrait. C'est très, très important. Ça ne veut pas dire du tout que passer du concret à l'abstrait, c'est inutile. Dans l'ordre pratique, faisons attention. Dans l'ordre de progrès de ma connaissance, faisons attention. Mais c'est très important de passer de l'abstrait au concret. Parce que c'est là où mon intelligence s'aiguise. C'est quand elle passe de l'abstrait au concret, parce qu'elle veut aller plus loin que la simple constatation. Donc c'est là où je me purifie de tout positivisme. C'est quand même important. Parce que le positiviste reste resté sur les réalités de fait, sur le fait. Il ne veut pas aller plus loin. L'intelligence passe à l'abstrait. Vous savez bien ce qu'on dit habituellement. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? C'est ce qui fait que le blanc est blanc. Merveilleuse définition, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que le blanc est blanc. C'est ce qui fait que le blanc est blanc. C'est vrai, c'est ça la blancheur. Qu'est-ce que c'est que l'essai? C'est ce qui fait que ce qui est, est. Et ça, c'est la formalisation. C'est l'intelligence qui veut, à partir d'une réalité qu'elle expérimente, saisir ce par quoi cette réalité est. Et c'est ce par quoi cette réalité est que l'intelligence peut progresser, elle formalise. C'est la pauvreté de notre intelligence, remarquez cela, de formaliser. elle peut pas avancer autrement. Et là, on voit très bien que ses intuitions sont faibles. Parce que de fait, elle a besoin de passer du concret à l'abstrait. Pour revenir ensuite au concret. Hein, pour revenir ensuite au concret. Mais elle est obligée de passer par ce passage particulier. Alors, prenez l'exemple. Entre blanc et blancheur. Blancheur a la même signification que blanc. Ça, vous ne mettez pas ça en doute. Moi, je crois. Autrement, je ne verrais pas pourquoi vous dites que la blancheur, c'est ce par quoi blanc est blanc. Ça ne signifierait rien du tout. Donc, vous ne mettez absolument pas en doute que lorsque vous passez de blanc à blancheur, de fait, c'est la même signification. Quand vous passez de ce qui est, ceci est, à l'être, vous commencez à douter. Est-ce que c'est la même signification ? C'est très curieux. Alors que c'est exactement la même chose. Mais on est tellement impressionné par l'être. On est tellement impressionné, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que l'être ? Tandis que quand je dis ceci est, ah, je suis beaucoup moins impressionné. Parce que vous comprenez que le passage entre blanc et blancheur n'est pas grand-chose. Tandis que le passage de ce qui est à qu'est-ce que l'être, ah, c'est un passage énorme. C'est un passage extraordinaire. Mais c'est toujours le passage du concret à l'abstrait. Mais c'est quelque chose de formidable d'arriver à faire ce passage. Ce qui est, ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, je passe du concret à l'abstrait. Jugement d'existence, toujours concret à l'abstrait. Est-ce, est-ce, pour ceux qui s'intéressent à saint Thomas. Ceci est, quod est, est-ce. Est-ce a toujours une petite saveur abstraite. Toujours. L'infinitif a toujours une petite saveur abstraite. Alors, on formalise, on thématise ce qui est en disant est-ce. On thématise le jugement d'existence aussi et en disant qu'est-ce que c'est que l'être. Mais il y a la même signification, et c'est ça qui est important à comprendre. Il y a la même signification. Donc, l'intelligence puise la signification de l'être à partir du jugement d'existence. La signification de l'être ne vient pas de l'intelligence, mais de la réalité. Ça, c'est capital de comprendre ça, hein, parce que là, on est en face de deux positions qui sont très diverses. Si vous voulez dire que la signification de l'être provient de l'intelligence, vous êtes en face de la subjectivité transcendantale de l'intelligence. Si vous dites au contraire que la signification de l'être provient du jugement d'existence, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose d'antérieur à l'intelligence, sur lequel l'intelligence s'appuie dans le jugement d'existence, et auquel elle revient tout le temps pour essayer de saisir ce qu'est la réalité. Elle est capable de la saisir, mais cette réalité, elle la regarde. Cette réalité n'est pas elle. Cette réalité, c'est quelque chose qu'elle peut dévoiler, qu'elle peut connaître, qu'elle peut saisir. Tandis qu'au contraire, si la signification de être, vous voyez dans la position heideggerienne, hein, là, la différence. Dans la position heideggerienne, la signification de l'être ne venant pas des étangs, n'étant pas puisée à travers les étangs, fatalement. Vous retrouvez que la signification de l'être est liée à l'esprit d'une façon telle qu'elle est inscrite dans l'esprit. Ça ne peut pas être autrement. Je ne peux pas donner d'autres significations.